Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Identité culturelle, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la promotion et à la valorisation de notre patrimoine culturel. Et chaque peuple se reconnaît justement à travers sa langue, ses traditions, ses savoirs et ses valeurs. Parmi les langues qui façonnent l'identité de millions d'Africains figurent les Kiswahili. Parlé aujourd'hui par plus de 200 millions de personnes, il est bien plus qu'un simple moyen de communication. Il est un héritage culturel, un facteur de cohésion sociale, mais aussi un instrument d'intégration entre les peuples d'Afrique. Depuis 2021, l'UNESCO célèbre chaque 7 juillet la Journée mondiale de la langue Kiswahili, une reconnaissance internationale qui souligne l'importance de cette langue dans la promotion du dialogue, de la paix et de la diversité. En RDC, et particulièrement dans sa partie orientale, le Kiswahili occupe une place de choix dans la vie quotidienne. Pourtant, son histoire, sa richesse et les défis liés à sa promotion restent encore méconnus de nombreux citoyens. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le professeur Bagamba Arali, enseignant d'université et consultant international en sociolinguistique. Professeur Bagamba Arali, bonjour et bienvenue dans notre émission Identité culturelle.
Bonjour.
Voilà, vous êtes consultant international en sociolinguistique. 7 juillet, le monde célèbre la Journée mondiale de la langue Kiswahili. Voilà, la seule langue africaine reconnue par les Nations Unies, avec une journée mondiale. Première question, professeur Bagamba Arali, pourquoi le 7 juillet est-il consacré à la Journée mondiale de la langue Swahili?
Comme vous l'avez dit, c'est une langue qui a attiré l'attention de la communauté internationale à cause de sa vocation internationale. C'est la seule langue qui est parlée par presque 300 000 personnes en Afrique. Et bien sûr, on a les langues Fulfulde, mais le Swahili occupe le plus grand nombre de pays, presque 12. Et l'ONU a voulu qu'on puisse attirer l'attention de la communauté africaine sur cette langue.
Donc, vous l'avez dit, le Swahili est aujourd'hui parlé par des dizaines de pays, voire des centaines, des millions de personnes à travers le monde. Selon vous, qu'est-ce qui explique un tel rayonnement?
Oui, c'est le contexte de la naissance de Kiswahili. Avec le Kiswahili s'est répandu en Afrique avec le voyage des Arabes, tout ça. Et lorsque la colonisation est arrivée, ils se sont mis sur les traces d'arabes. Ils n'allaient pas encore inventer une autre langue. Vous verrez, donc, avec l'entrée de ceux-là qui ont créé l'État indépendant du Congo, est né le Lingala. Mais à l'est, c'était le Swahili. Et le Belge, ça les a bien servis.
Et en RDC, le Swahili est l'une des quatre langues nationales. Quel rôle, professeur Bagamba Arali, joue-t-il dans la cohésion nationale et dans les échanges entre les communautés, selon vous?
Oui, en l'est de la République démocratique du Congo, le Swahili joue le rôle de langue de contact interethnique. Donc nous avons beaucoup d'ethnies à l'est de la République démocratique du Congo. Et le Swahili permet de connecter tout ce monde. Avant l'arrivée de Français, le Swahili était déjà là. C'est la langue qui nous permet de traverser les limites administratives des ethnies.
Quelles sont les parties dans l'est de la RDC où le Swahili est vraiment parlé? Bien sûr, pas l'Ituri, mais c'est pas tout l'Ituri aussi. Par exemple, à Aro, c'est plus Lingala. Je sais pas que... Quels sont les coins où vraiment le Swahili occupe une grande place, pour ne pas dire la première place?
Oui, comme vous avez dit, à Aru, ce sont des individus qui peuvent parler le Swahili. À Mahagi, on a même déjà des cultes à langue Swahili, déjà ça commence à s'installer. Donc Mahagi est disputé entre le Swahili et le Lingala. Et c'est la présence des agents de l'État qui est en train d'installer le Lingala à Mahagi. Mais donc à partir du sud de Djougou, jusqu'au Katanga, donc au Grand Katanga de l'époque. Le Swahili, c'est la langue qui connecte les individus. Donc les ethnies, pas les individus.
Mais ce swahili n'est pas universel ou parlé de la même façon partout à travers le monde. On entend souvent dire que le swahili parlé en RDC pardon, est différent de celui de la Tanzanie ou du Kenya. Est-ce qu'il faut se sentir complexé si on ne parle pas le swahili du Kenya, de la Tanzanie, de Zanzibar par exemple? Parce qu'on dit que c'est ça le bon swahili.
Non, il ne faut pas se sentir complexé. On dit que le swahili est né à Zanzibar, ça a grandi à Tanzanie, donc c'est devenu malade au Kenya, mort en Ouganda et enterré en République démocratique du Congo. Et cela exprime une vérité sociolinguistique. C'est le fait que toute langue qui occupe un grand espace subit cette question de dialecte. C'est-à-dire que les habitants qui parlent une certaine langue, donc la modifient par moyen de l'interférence linguistique avec la langue qu'ils parlent. Donc la langue va s'accommoder à la couleur locale de langue qui existe. Par exemple, ce que nous parlons dans la rue de Bounia ici, c'est vraiment le pidgin, c'est la langue soudanaise parlée avec les mots de swahili. Parce que avec l'arrivée de Belges, on a forcé la population lindoufone qui travaillait pour la mine à apprendre le swahili et on n'a pas eu le temps de bien l'apprendre. Et ça s'est fait comme ça pour toutes les langues. L'allemand, c'est le même problème. Chaque région d'Allemagne a sa langue, mais on a un allemand standard que tout le monde apprend à l'école. Et c'est ça aussi la situation avec le swahili. Chaque région peut avoir sa swahili, mais on a un swahili standard que nous devons apprendre à l'école pour nous unir tous.
Que faut-il faire pour mieux enseigner justement, ou apprendre, ou valoriser le swahili en RDC?
L'État et l'école doivent faire leur travail. L'État a élaboré une politique linguistique qui nomme les langues nationales. Et pour toutes les langues nationales, l'État met de moyens donc en position des écoles pour que ces langues soient enseignées à l'école. Mais malheureusement, depuis un beau bout de temps, il y a même des écoles privées qui n'enseignent pas le swahili et pourtant c'est une infraction pédagogique. La loi cadre dit ceci, vous pouvez ajouter des matières supplémentaires, mais pourvu que toute la matière prévue par le programme soit enseignée. Et nous-mêmes, les parents, nous envoyons nos enfants dans des écoles qui n'enseignent pas le swahili. Les inspecteurs laissent cela passer, donc il y a une sorte de négligence qui commence à se généraliser, mais qui fait très mal à la jeunesse congolaise.
Professeur Bagamba Arali, quel rôle les parents ont-ils donc dans l'apprentissage de swahili dès le plus jeune âge? Est-ce qu'il est important qu'un enfant apprenne le swahili à la maison avant même son entrée à l'école?
Le swahili étant une langue de contact interethnique, les parents n'ont pas tellement le devoir de faire apprendre aux enfants le swahili dès le bas âge. Les enfants apprennent le swahili dans le quartier. C'est-à-dire que ici chez nous, chez les Blancs, les enfants apprennent la langue de leurs parents. Mais ici chez nous, les enfants apprennent la langue des autres enfants. Donc je peux être par exemple un logo. Dans la maison, nous parlons logoti, mais quand mon enfant sort de la maison, l'enfant va apprendre le swahili pour jouer avec les autres enfants. Donc ça dépend de si on est dans une agglomération ethniquement hétérogène ou ethniquement homogène. Lorsqu'on est dans une agglomération ethniquement homogène, l'enfant grandit dans un environnement où il n'y a que sa langue maternelle, l'école doit faire son travail. Même moi, quand j'étudiais à l'école primaire en territoire de Djougou, l'école nous enseignait le swahili. C'est nous, déjà à deuxième année primaire, j'écrivais les lettres à swahili pour les voisins de mes parents. Le grand problème aujourd'hui, c'est l'école qui est en train de laisser son rôle. C'est ça le problème.
On se souvient, on nous apprenait Anani, Anaona, Ana, voilà.
Exactement. Donc l'État a prévu, donc étant donné que le swahili, c'est la langue donc nationale, on en a besoin. L'État a besoin de la population qui parle le swahili. Monsieur le journaliste, on a ces problèmes aujourd'hui. On les voit, voilà. L'État peine à sensibiliser la population de l'Ituri à cause de l'épidémie d'Ebola. On continue à chercher quelle est la langue dans laquelle il faut faire la sensibilisation. Les agents de l'OTAN doivent comprendre cela. C'est-à-dire que le swahili, on doit mettre de l'accent, que les écoles fassent leur travail. Les ISP qui forment les enseignants de swahili doivent le faire. Mais surtout, les inspecteurs ne doivent pas tolérer le fait que les temps alloués au cours de swahili sont en train de se passer ou bien c'est là où on fait les autres leçons de récupération. C'est une faute.
De plus en plus, des parents privilégient les Français à la maison. Quel impact cela peut-il avoir sur la maîtrise de Swahili par les enfants? Que conseillez-vous justement à ces parents pour transmettre naturellement les Swahili à leurs enfants au quotidien?
L'effet de privilégier le français en famille, ça n'a pas seulement des pactes sur le Swahili, ça a des pactes sur l'identité même des Congolais, l'identité des enfants. L'enfant à qui tu parles le français à la maison, cet enfant appartient à quelle nation? Il appartient à quelle nation? Parce que chez nous, on a plusieurs degrés d'identité. On a son identité ethnique, on a son identité régionale et on a son identité nationale. Raison pour laquelle donc l'UNESCO conseille à toutes les nations, dans les pays multilingues, chaque enfant, pour bien vivre, doit apprendre trois langues. Sa langue ethnique pour avoir bénéficié de la sépantie au sein de sa propre communauté. On a la langue comme le Swahili ou le Chiluba pour une connexion régionale et le français ou l'anglais pour permettre qu'on puisse accéder à l'enseignement supérieur universitaire. Et il ne faut pas briser cela. Vous amenez l'enfant à l'école, vous parlez le français à la maison et pourtant vous avez déjà payé l'école pour le faire ça. Nous devons laisser à l'école de faire son travail et nous devons aider nos enfants à acquérir l'identité nationale, l'identité locale qui vont avec donc les langues. Raison pour laquelle les gens de l'Ouest vous posent la question aux Ali Monokonini pour dire que la langue fait partie intégrante de l'identité d'un enfant, d'une personne, même pas un enfant. Sinon, on devient quelqu'un qui n'est pas prêt pour les rendez-vous de donner, de recevoir, comme disait Mobutu.
Pourtant, à une époque, je ne sais pas si cette pratique ou méthode continue. Quand nous étions à l'école primaire, si vous entrapez en train de parler le Swahili, c'est le fouet, c'est la punition. Comment jugez-vous cette pratique où, à l'école primaire notamment, il fallait subir des fouets, des sanctions, des punitions parce qu'on a parlé le Swahili?
Ça, c'est même l'introduction de mon cours de sociolinguistique à l'ISP. Je dis l'étudiant ou un enseignant qui punit un enfant pour avoir parlé le Swahili ou sa langue maternelle, C'est un aliéné. Il n'y a pas un jour qu'on punit un enfant français pour avoir parlé le français. On ne punit pas un enfant anglais ou un enfant, je ne sais pas. Tout le monde font un effort pour chérir leur identité nationale. Nous sommes en présence de personnes ayant subi une colonisation matale. On est colonisé matalement. On veut se faire français et pourtant vous ne deviendrez jamais français, mais vous voulez parler comme eux. Non. Nous devons accepter notre identité congolaise, parler chaque langue là où on en a besoin. Raison pour laquelle je dis, l'objectif de cours de la sociolinguistique à l'ISP, c'est de faire que nos étudiants, les futurs enseignants, donnent à chaque langue la même valeur. La langue Lendu, Bira, Hema, je ne sais pas, toutes ces langues ont la même valeur que le français ou l'anglais, sauf c'est le niveau de... C'est l'audience qui diffère. C'est l'audience qui diffère. Le Lingala ou le Swahili fait pour sa population exactement ce que le français fait pour sa population en France. Donc nous devons apprécier nos langues à leur juste valeur.
Radio Kapi, le souffle du Congo.
Quel message voudriez-vous bien adresser à tous les Swahilophones qui vous écoutent sur Radio Kapi à travers le monde?
J'aimerais dire que les Congolais doivent être conscients du fait que le Swahili c'est une langue à vocation internationale. Et aujourd'hui, le Congo fait partie de pays de l'Afrique de l'Est où le Swahili pourra devenir la langue officielle. C'est la seule langue que nous partageons avec le Tanzanien, avec le Kenya, avec les Ougandais, les Burundais, le Rwanda. Et comment est-ce que nous voulons que nos enfants puissent fonctionner dans cette alliance régionale alors que nous sommes en train de dégrader la langue qui est en train d'unir les gens? Aujourd'hui, l'Ouganda qui n'enseignait pas le Swahili, c'est entré sur le programme national. L'armée ougandaise fonctionne à Swahili. Et nous sommes le troisième pays locuteur de Swahili dans le monde, après la Tanzanie et le Kenya. Nous devons prendre notre place. Quand les gens, donc il y a des fois, par exemple, l'université Jomo Kenyatta du Kenya me demande si on peut venir tenir une conférence sur le Swahili à l'ISP Bunia. Nous devons avoir de vrais chercheurs dans ce pays. Nous devons accepter notre rôle de Swahili bantouisé. Parce qu'au Kenya et à Tanzanie, on a plus le Swahili qu'il y a beaucoup de monde arabe. Mais nous sommes le seul pays qui parle le vrai Swahili bantouisé. Donc nous comptons Makumi Mbili, Makumi Tatu, ça c'est le Swahili bantou, au lieu de Ishirini, Amsini, et ainsi de suite. Donc nous avons une spécificité aussi à valoriser. Quand j'en parle à l'étranger, les gens disent, oui, c'est ça, le Swahili Congo, c'est le vrai Swahili africain.
Makumi Mbili, Makumi Tatu.
Exactement, ça c'est la règle grammaticale des langues bantou. Mais quand on a Ishirini, Amsini, ça c'est venu de l'arabe. Donc les Congo a bantouisé le Swahili et nous devons en être fiers sur les génies de Congolais. Seulement, nos écoles et l'État doivent mettre le moyen pour que nos enfants apprennent le Swahili standard comme il faut. Donc nous avons, comme nous avons dit, nous avons beaucoup de dialectes. Moi-même, quand j'étais à Lualaba, j'ai demandé qu'on me donne ugali et on n'a rien trouvé, mais donné à manger. Je voyais tout le monde manger ugali. Mais finalement, j'ai dit, quelle discrimination, donne-moi ça. On dit, mais ce n'est pas ugali, c'est de Bukhari. Parce que le Swahili standard ugali n'est pas connu. Donc nous devons ramener nos enfants vers le Swahili standard qui va unir les locuteurs de tout le dialecte de Swahili au Congo et nous unir aussi avec les gens qui parlent le Swahili dans d'autres pays.
Mais le professeur Bagambaral, comment connaître ce Swahili standard? C'est vrai quand la plupart des personnes, quand ils écoutent BBC, quand ils écoutent RFI Swahili, bon, ils ne pigent pas grand-chose. Comment faire pour être sur ce Swahili standard pour que nos enfants aussi... Parce que c'est aussi ce qu'on nous reproche. Parfois, on vous entend à la radio, mais ne comprend pas parce que vous voulez être comme vos confrères de la BBC, de la Tanzanie. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Que direz-vous à nous journalistes?
Remontons les niveaux. Il y a des journalistes qui descendent trop bas et on doit donner un exemple. Dans un pays où, pour une langue qui a beaucoup de dialectes, la radio doit opérer dans le langage standard. Ok?
Pourquoi?
Parce que c'est ce que tout le monde peut comprendre. Si toi tu parles, si nous parlons le Swahili de Bunia, les gens de Lualaba qui vont nous écouter aujourd'hui ne comprendront rien. Donc nous devons remonter les niveaux au même. Même à Tanzanie, lorsqu'on est sur la radio nationale, la télévision nationale, ce n'est pas le Swahili de la province qu'on parle. Tout même à Tanzanie, on a cette variation dialectale. Nous devons rehausser les niveaux, mais nous devons rentrer à l'ISP là-bas. L'ISP, il faut que les niveaux de Swahili, il faut que les cours de Swahili, les niveaux remontent. Si ce n'est pas ça, envoyons les gens à l'université Jomo Kenyatta au Kenya pour qu'ils rentrent ici comme des vrais enseignants du Swahili. Parce que nous devons prendre notre place et nous avons la vocation de devenir le premier pays locuteur de Swahili au monde. Parce que la Tanzanie n'a pas notre population. Nous avons une population qui s'accroît et l'est du Congo où le Swahili est installé, c'est là où on a la base démographique de ce pays.
Soufflons un tout petit peu avec cette très belle chanson que nous propose la technique.
Tu t'as tout à l'heure, tu t'as fait des amours d'avoir beau. Tu t'as tout à l'heure.
Je rappelle que je reçois le professeur Bagamba Arali. Il est expert international en sociolinguistique et nous abordons la question sur la journée du 7 juillet dédiée en tout cas à la langue swahili, mais aussi certains politiciens ou acteurs politiques utilisent la langue un peu pour diviser la population, pour diviser le peuple. À une époque, vous disiez, bon, vous parlez swahili, ah, c'est que ce sont ceux-là qui sont les partisans de tel ou ancien régime. On vous retrouve la nuit, vous parlez lingala, ah, ces messieurs, donc, il est de telle obédience, il faut qu'on l'arrête. Que direz-vous, par exemple, à ceux-là qui utilisent la langue, nos langues nationales, s'il faut le dire ainsi, pour globaliser, pour diviser la population?
Donc, la justice doit faire son travail. Ces langues, donc, Mobutu, c'est-à-dire que le Zaïre avait la politique linguistique la plus évoluée d'Afrique. Mobutu, le régime Mobutu, était l'un des seuls pays en Afrique qui avait vite reconnu qu'il fallait permettre aux régions d'évoluer avec la langue qu'ils parlent déjà. Alors, c'est à l'époque Mobutu, par exemple, cette question de Baswahili, Bangala n'existe pas. C'est la relâche de la part de la justice. Donc, ce n'est pas seulement la langue, c'est la question de la discrimination en général. On doit combattre les discriminations à tous les niveaux. Par exemple, à Kinshasa, on a vu beaucoup de cas où les swahilophones sont indexés, mais on n'a pas vu la justice peut-être faire son... Peut-être ils l'ont fait à mon insu, mais c'est ça le problème. On doit promouvoir l'unité dans la diversité. À l'époque, Mobutu, là, quand on parlait des citoyens, non, n'est-ce pas? Donc, l'essentiel, c'est qu'il est congolais. Donc, la langue, les politiciens, comme vous l'avez dit, qui indexent les gens par rapport à la langue qu'ils parlent, la justice doit faire son travail. Nous devons promouvoir l'unité des pays en utilisant toutes les langues dont nous disposons. Nous avons aujourd'hui 4 langues nationales et environ 213 langues congolaises. Toutes ces langues, ça fait partie de notre patrimoine national.
Nous allons chuter par là un domaine aussi qui vous concerne. Vous faites aussi la traduction des Bibles. Pourquoi traduire nos Bibles traditionnelles en langue locale, même si ce n'est pas le swahili? Est-ce que c'est pour besoin de nécessité? Quel constat avez-vous fait et qu'il faut traduire les Bibles traditionnelles qu'on a connues en langue locale?
Encore une fois, c'est pour permettre aux gens qu'ils puissent vraiment accéder à la parole de Dieu d'une manière intégrale. Nous menons des recherches, vous trouvez que la connaissance du swahili, comme vous le dites, est en train plutôt de dégringoler. Et dans toutes les ethnies pour lesquelles nous faisons la traduction de la Bible en langue locale, nous menons d'abord des recherches sur leur connaissance de swahili. Si c'est dans la région de Lingala, on le fait. Est-ce que le Lingala, et là nous avons même un test que nous appelons SRT, donc test de répétition des énoncés, nous l'avons pour le swahili, nous avons pour le Lingala, nous étudions. Est-ce que cette communauté est en train de subir? Donc, est-ce qu'il y a une barrière linguistique à leur accès à la Bible? C'est ce que nous faisons. Et si nous trouvons que le swahili, c'est un problème pour eux, et nous mettons à traduire la Bible pour eux dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux. Voilà.
C'est surtout dans des milieux ruraux, j'imagine. Abunya n'expose pas autant de problèmes pour ça, mais surtout dans les coins reculés des territoires, dans les villages reculés où on ne parle presque pas le swahili ou le français, ou même le lingala, je ne sais pas.
Ici, vous voyez, par exemple, le swahili, ça se limite où, quand vous allez vers le nord. Le swahili atteint à peine la barrière. Et le swahili qu'on parle à barrière ne vous permet pas de comprendre la Bible. Et nous avons fait cette recherche, que ce soit parmi les Bira, toutes les communautés ici. Le fait que le swahili n'est pas bien enseigné à l'école, c'est un vrai problème. Mais les communautés continuent à faire passer leur langue à leurs enfants. Donc comme même dans la loi, on dit qu'il faut juger quelqu'un dans la langue qu'il connaît, la justice au ciel sera grave. Ça sera la condamnation à la vraie perpétuité. Donc, il faut que les gens comprennent la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous le faisons. Si tout le monde était en mesure de bien comprendre le swahili, ce ne serait pas un problème. Nous, on ne se mettrait pas à traduire la Bible dans les langues locales.
Je rappelle que je recevais le professeur Bagamba Rally et votre mot de la fin.
Retenons ce que l'UNESCO nous demande. Apprenons à nos enfants nos langues maternelles. Aidons-le à bien maîtriser le swahili qui est une langue d'intégration nationale et d'intégration régionale dans la région de Grand Lac. Et aidons nos enfants aussi à bien parler le français. Et comprenons que nous payons les écoles pour apprendre aux enfants le swahili, le lingala et le français et l'anglais. Ne faisons pas le travail de l'école, faisons pression sur les écoles et les inspecteurs pour qu'ils donnent à nos enfants les leçons pour lesquelles nous avons payé. Et notre rôle, c'est de transmettre à nos enfants nos langues maternelles et leur montrer que toutes les langues ont la même valeur. Voilà le rôle des parents, c'est de dire que toi, tu es Moema, toi, tu es je ne sais pas de quelle tribu, voilà la langue de notre héritage, mais quand tu parles cette langue, elle t'aide dans ce cadre. Quand tu parles le swahili, voilà là où ça t'aide. Quand tu parles le français, là où ça t'aide. Donc, l'UNESCO a bien réfléchi. Gardons cette recommandation de l'UNESCO. Merci beaucoup d'avoir rappelé à la communauté nationale cette journée.
Professeur Bagamba Rally, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous votre regard sur la richesse et l'importance de la langue swahili, l'un des piliers de notre patrimoine culturel. Merci également vous, chers auditeurs et auditrices, mais aussi internautes, pour votre fidèle attention. Identité culturelle revient dimanche prochain à la même heure pour une nouvelle immersion au cœur de nos langues, de nos traditions et de nos valeurs. D'ici là, continuez à préserver et à transmettre ce qui est de notre identité. Au micro, Jean-Claude Loki-Dilé. Cette émission a été supervisée par Rosalie Zawadi-Masika et coordonnée par Jean-Marc Matoaki-Dijano. À très bientôt sur nos antennes.